radio sauvage.
Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir, et oui, il est 6h, 6h avant minuit. Bienvenue dans l'émission d'actualité locale de Syllab. Savez-vous combien de femmes ont été récompensées du prix Nobel de littérature en 123 ans ? Petite question autour de la table. Des chiffres, non ?
4.
Un peu plus. 17. Enfin, 18, puisque l'Académie suédoise vient de remettre le fameux sésame à Han Kang, romancière sud-coréenne, autrice du livre « Impossibles adieux ». Il y a 2 ans, c'était une Française, Annie Ernaux, qui était reconnue internationalement grâce à ce prix. C'est lent, mais il semblerait qu'on avance à 87 hommes près. Tout de suite, le flash de Cyriane.
L'Union européenne se tient aux côtés des populations affectées par la crise en cours au Liban, a déclaré hier sur X Ursula von der Leyen. En conséquence, l'UE lance un pont aérien humanitaire vers le Liban, attendu le 11 octobre à Beyrouth, où des frappes israéliennes ont toujours lieu. Le premier des 3 avions remplis de produits d'hygiène, d'abris, de fortune et de matériel médical doit partir de Brindisi, dans le sud de l'Italie. Près de 1200 personnes ont été tuées depuis le 23 septembre, selon un des comptes de l'agence de presse, de l'agence France Presse, à partir des chiffres officiels. Elle commence à s'éloigner, mais Météo France maintient pour aujourd'hui 3 départements en vigilance orange crue. La Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire sont passés en vigilance rouge. La tempête Kirk n'a donc pas fini de faire des dégâts. Un plaisancier est décédé mercredi au large de Sète et un autre est en urgence absolue du fait de la forte houle secouant les côtes de l'Hérault. Plus de 67 000 foyers ont été privés d'électricité et ce, principalement dans le sud de la France. En 50 ans, les populations d'animaux sauvages ont diminué de 73%. Un nouveau rapport de la WWF pointe ce drame face auquel il faut agir dans les 5 prochaines années. Sans quoi, des points de bascule seront atteints, affirme la dernière étude de l'ONG. Et ce, à quelques jours de l'ouverture de la COP16 sur la biodiversité en Colombie. Aujourd'hui, un grand homme prend sa retraite après plus de 23 ans de carrière. Rafael Nadal s'en va à cause de ses blessures. Thomas va nous en dire plus.
Aujourd'hui, nous allons parler tennis avec une nouvelle plutôt inattendue qui ne vous laissera pas de marbre. C'est non sans émotion qu'une légende du tennis tire sa révérence. Rafael Nadal, 38 ans, a annoncé sur ses réseaux sociaux se retirer des courts. Après 23 ans de carrière, ses jeux, sets et matchs pour l'Espagnol, un coup droit dans le monde du sport, dû aux nombreuses blessures, le revers de la médaille. En quête de sa meilleure forme, Rafa a bataillé ces dernières années sans parvenir à retrouver son niveau. Son corps lui a donné raison. L'un des plus grands sportifs de l'histoire a décidé de poser la raquette et laisser place à la nouvelle génération. Le maître de la terre battue raccrochera après la phase finale de la Coupe Davis le 24 novembre prochain sur ses terres à Malaga. C'est une nouvelle que personne n'attendait. Les plus grandes stars du tennis lui ont adressé de beaux messages, à l'instar de Carlos Alcaraz, je cite.
Merci beaucoup d'être un exemple à tous les niveaux. Ton héritage est irremplaçable. Je t'ai beaucoup apprécié et tu me manqueras quand tu partiras après la Coupe Davis, Rafa.
Il y a également son ami, son grand ami, Roger Federer, l'ancien tennisman suisse qui s'est exprimé à ce sujet.
Quelle carrière, Rafa. J'ai toujours espéré que ce jour n'arrive jamais.
Un bilan plus qu'honorable pour l'Espagnol, 92 trophées, parmi eux 22 titres du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros. La terre de Roland-Garros aura fini par le battre. Il ne rejouera finalement plus sur son court Philippe Châtrier. Adios, Rafa.
Le gouvernement assassine-t-il les départements ? C'est en tout cas l'avis du socialiste Christian Quay, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, lors d'un débat budgétaire de la région. Une réunion organisée après l'annonce du gouvernement de sa volonté de réaliser des économies. L'État souhaite imposer une coupe de 5 milliards d'euros aux collectivités locales. À l'échelle de la Bretagne, ça représenterait, cela reviendrait à une coupe nette de 40 à 50 millions d'euros en fonctionnement pour 2025, d'après Loïc Chesnay-Girard, président de la région. Un effort qui correspondrait selon lui à une fermeture de tous les lycées publics bretons pendant une année entière. Selon l'OMS, 30% des jeunes affirment ne pas avoir utilisé de contraception lors de leur dernier rapport sexuel. Eva s'est penchée sur la question.
Une hausse des IST, associée à une baisse d'usage de contraception chez les jeunes, a été le sujet majeur des rapports de l'OMS cet été. Pour mieux comprendre par moi-même ce phénomène, j'ai décidé de partir à la rencontre de quelques étudiants et étudiantes de Rennes 2, âgés de 18 à 23 ans, pour connaître leur point de vue sur ce sujet. Même si chacun et chacune connaissent les IST et leurs risques, l'usage de contraception lors de rapports sexuels n'est pas unanime au sein des jeunes interviewés. Mehdi, 23 ans, nous explique.
Me protéger avant, et vu que je suis dans une relation longue où on s'est fait tester, etc., j'en utilise plus vraiment. Au début, c'était vraiment par peur, on va dire, d'avoir un IST ou même le VIH. Mais après, une fois qu'on est testés tous les deux, je me fais plus trop de soucis par rapport à ça.
Mais chez les étudiantes telles que Louane, 21 ans, ou Louise, 18 ans, c'est une autre raison qui domine.
Pas avoir d'enfant.
Je veux pas avoir d'enfant.
Par contre, que ce soit pour les étudiants ou les étudiantes, leurs avis se rencontrent quant au cours d'éducation sexuelle à l'école. Mehdi et Oriane, 20 ans, nous racontent.
Ça parlait surtout de la protection, mais ça touchait pas forcément des sujets sur les pratiques ou même des notions de consentement. C'était principalement sur la protection.
C'était pas assez bien abordé, c'était au collège et c'était plus une prévention envers les maladies. Ça parlait pas trop de consentement.
Mais qu'en pensent les personnels de santé qui côtoient au quotidien les jeunes de la métropole rennaise? Docteur Valentine Demy Le Hénonf, médecin coordinatrice du planning familial 35, nous donne son point de vue.
C'est vrai qu'on a pu le constater, beaucoup de jeunes femmes viennent me dire « Non, moi je veux pas d'hormones, il faut toujours interroger pourquoi. » Souvent, un manque d'information, voire de la désinformation, avec des choses qui sont pas toujours vraies. Il y a encore beaucoup d'idées reçues, peut-être un manque de communication. Globalement, oui, il y a un manque de mise en place des interventions d'éducation à la sexualité telle que prévue dans la loi. Manque de temps, manque de financement, un mélange de tout ça.
Et surtout, n'oubliez pas, les préservatifs ainsi que les dépistages, et pas seulement pour le VIH, sont gratuits pour les moins de 26 ans. Lecture, jeu, création de CV ou encore soirée raclette, c'est le programme de... Héloïse, les Alpes, ça lui manque. Donc elle y sera peut-être.
Excuse-moi, qui continue Cyriane.
C'est le programme du CNCET 357 à Morpa, un quartier prioritaire rennais. C'est un bon moyen pour lutter contre le trafic de drogue à Rennes. Dans ce nouveau lieu, ouvert en juin dernier, sont accueillis les jeunes de 9 à 15 ans tous les lundis, jeudis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 14h à 19h. Rendez-vous au 32 rue de Tréguin à Rennes. Il paraît même qu'un séjour à la montagne pourrait peut-être avoir lieu. Héloïse, toujours. Hein.
Toujours présente pour parler de la yacht.
Le week-end dernier, Lilia et Elena se sont rendues au Rave Park, festival de musique rap et électro, pour enquêter sur l'évolution et l'émergence d'une nouvelle scène musicale qui mélange les deux genres auprès du public qui était présent sur place.
Moi, je suis Hervé Killien, donc je suis chargé de communication du festival Rave Park qui a lieu en ce moment même au Parc Expo. En fait, l'idée c'était de faire un festival pour les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes écoutent le plus? Ça va être du rap et puis il y a une vraie culture de la musique électronique sur Rennes. Donc ça nous paraissait assez évident de vouloir mélanger les deux. Évidemment, déjà on est très fan de rap et d'électro. Donc forcément, quand les deux se mélangent, on adore. C'est ce qu'on fait par exemple sur la scène électro. Là, on va avoir deux producteurs qui s'appellent Abel 31 et Amné, qui sont des producteurs que nous on adore, qui ont bossé avec des Runa, des Luther, enfin voilà, toute la nouvelle génération de rappeurs que nous on suit à fond. Et donc pour nous c'est super important de pouvoir aussi proposer ce genre de DJ set avec des producteurs qui sont quand même dans l'ombre, mais c'est pour nous les noms qui nous paraissent peut-être parmi les noms les plus importants à mettre en lumière cette année.
Du coup maman, c'est pour te dire que ça allait très bien et je vais revenir vivant, t'inquiète pas.
Venu pour le rap ou l'électro ici? Le rap.
Les deux.
Ah bah pour le rap.
On est venu pour les deux. Hein.
Principalement pour l'électro et parce que je suis aussi curieux de la new school du rap français. La Fève, j'ai bien aimé, je connaissais pas du tout.
Vous êtes venu pour le rap, l'électro ou les deux?
Pour le rap.
Que le rap.
Le rap.
L'électro.
Ça nous intéresse pas, c'est nul.
On verra bien ça.
Qu'est-ce que tu penses du fait que le festival ça mélange les deux genres justement, électro et rap?
Alors moi je trouve ça cool parce que moi il y en a pour tout le monde.
Genre les gens qui viennent pour l'électro, ils viennent pour l'électro, les gens qui aiment
le rap, ils viennent pour le rap. Et ceux qui kiffent les deux, bah ils kiffent encore plus.
Ça change quoi, tu classes pas dans le festival?
Vous en pensez quoi du fait que maintenant, y a, dans le rap, il y a une nouvelle scène qui émerge, qui mélange du rap et de l'électro? Beaucoup de producteurs de plus en plus, par exemple Néofront, Petite Sœur, Wilhelm. Et vous en pensez quoi de ce mélange en fait?
Moi je trouve que c'est une bonne chose. En fait les jeunes maintenant ils kiffent la plupart du temps, ça va être l'électro, le rap. En plus l'un ne va pas sans l'autre, dans tous les cas, un rappeur il a besoin d'une prod.
Quand le rap il évolue comme ça, c'est super bien.
Ça apporte un truc en plus au rap.
Bah ouais, un peu, mais c'est un peu de la musique de Yonkli. Ils ont tous 16 ans, ils font la rue, ils vendent des puffs et ils ont tous la même dégaine. Enfin...
Sacré avis quand même. Mais enfin bref, mes chers fans d'astronomie, levez les yeux. Une comète sera bientôt visible à l'œil nu dans le ciel de Fougères. De son petit nom tout mignon, C2023 A3 Tsu-Shin-Shan Atlas, cette comète découverte l'année passée devrait être observable dès ce jeudi. Et ce jusqu'au 14 octobre.
Merci Cyriane, nous avons deux invités ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Sylam, il est midi, la radio sauvage.
Minuit. C'est vrai ?
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Ciné Jeune, c'est une association basée à Chantepie, tout près de chez nous. Son objectif, l'éducation à l'image, avec comme outil pédagogique le 7e art. Oudy Rouge, coiffure un peu en pétard, Alexandre Leloup est le coordinateur général, directeur artistique, rédacteur et concepteur des supports pédagogiques de l'association, gros pull d'automne, distingué trait d'eyeliner, Marion Drouot est chargée de coordination et de communication pour Ciné Jeune. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Peut-être qu'on pourrait commencer par la base, c'est quoi l'éducation à l'image ?
Bien, ça, c'est une activité qui consiste à amener les spectateurs, et en ce qui nous concerne plutôt les jeunes spectateurs, à avoir un recul sur les images qu'ils sont amenés à regarder. Et en l'occurrence, d'où c'est la spécificité de Ciné Jeune, c'est qu'on va énormément axer sur le 7e art, donc le cinéma, et amener les jeunes, parce qu'on travaille beaucoup avec des scolaires notamment, pas que mais essentiellement, à mener des réflexions sur les images qu'ils peuvent percevoir dans les films. Et évidemment aussi, c'est notre sensibilité à comprendre aussi ce que peut être la mise en scène de cinéma. Voilà.
Ciné Jeune, ça existe depuis quand ? Qui est à l'origine de l'association ? Vous intervenez uniquement en Bretagne ?
Alors, Ciné Jeune, ça remonte tellement loin que je ne pourrais même pas trop vous dire qui étaient les concepteurs, parce que c'est la 28e saison, finalement, que ça existe. Il y a eu différentes périodes, en tout cas, de l'association. Voilà, nous on l'a repris dans l'association autour de 2013 et donc nous on intervient pas uniquement en Bretagne, on a différentes antennes qui existent sur différents endroits du territoire, notamment en Auvergne et aussi en Sarthe, et on intervient nous globalement dans le très Grand Ouest. Voilà.
Et qui est à l'origine de l'association ?
Alors, ce que je disais, je ne pourrais plus trop vous donner les noms parce qu'on a récupéré ça. L'association est passée entre différentes mains. Et donc, les noms des précurseurs, c'est un peu compliqué de vous les donner parce qu'en vrai, je ne les connais pas.
Quel est le profil de votre public ? Avec quelle structure travaillez-vous ?
Comme disait Alexandre, on a majoritairement un public de scolaires. Donc, en fait, au fur et à mesure des années d'existence de l'association, il y a vraiment un réseau d'établissements scolaires assez fidèles qui s'est créé. Et on peut dire qu'en moyenne, avec les différentes antennes en France, on travaille avec 150 établissements scolaires.
C'est ça.
Donc, sur toute la France. Et donc, nos activités, on les propose aussi à d'autres structures. Ça va être des médiathèques, ça va être des centres de loisirs, sur des festivals de cinéma aussi, par exemple.
Comment ça se passe concrètement, un atelier d'éducation à l'image avec Ciné Jeune ? Comment vous vous démarquez dans votre méthode pédagogique ?
Alors, la première étape, ça va d'abord être autour de la programmation. Je prends l'exemple de ce qui nous concerne le plus, ça va être la programmation pour les écoles élémentaires. On va nous faire le choix d'avoir 4 films sur l'année. Ces films-là, ils vont être choisis en concertation avec des enseignants et articulés autour d'une thématique qui va non pas être une thématique, enfin qui va être une thématique formelle, narrative ou liée à la mise en scène. Ensuite, il va y avoir un énorme travail d'analyse. Voilà, on est, Marion et moi, on est aussi des anciens de Rennes 2, d'art du spectacle, donc on a appris aussi à analyser les films, et une fois que les films sont analysés de manière assez brute, il va y avoir tout un travail pour rendre ça le plus ludique possible, le plus vivant possible, pour que, in fine, ce soit des CP, des CE1, des CE2 qui puissent analyser le film. Voilà.
Avec les jeunes que vous accompagnez, vous ne faites pas seulement de l'analyse, mais aussi de la création. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. On a développé aussi donc, différents ateliers techniques, doublage, bruitage, effets spéciaux, et également la réalisation de films directement avec les élèves. C'est-à-dire que plusieurs écoles par an s'inscrivent et elles font un film avec nous de A à Z, avec les élèves qui vont être... qui vont être amenés à travailler sur le scénario. Donc on a un intervenant chez nous, Julien, qui va leur apprendre le scénario. Ils vont l'écrire par eux-mêmes, ils vont faire du storyboard, ils vont au final le tourner et même le monter. Voilà. Et à la fin, ça se termine par une projection en fin d'année devant les parents. Plutôt cool.
Au cinéma.
Et au cinéma.
C'est important.
Apprendre à analyser des films et des images et à les créer, qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes d'aujourd'hui, selon vous ?
Pour moi, c'est essentiel que de former les jeunes du mieux possible aux images, parce qu'il y en a tellement qui les entourent qu'il faut bien les préparer à ça. Et en plus, nous dans l'association, c'est vraiment important qu'il y ait une concertation avec les enseignants aussi pour qu'ils aient leur avis pour choisir les films, parce qu'ils sont aussi aptes à choisir des œuvres de qualité. Et nous, comme disait Alexandre, on va vraiment choisir des films où il y a une mise en scène intéressante. Donc en fait, avec les animations ciné-jeunes, les élèves, ils vont vraiment à la fois apprendre ce que c'est que lire des images, et puis aussi qu'est-ce que c'est que le cinéma, en quoi ça consiste, j'espère se développer après, pourquoi pas, une passion pour le 7e art. C'est ce que j'espère en tout cas.
Savoir critiquer, ça apporte de l'esprit critique ?
Oui, par la force des choses. Et nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est que les élèves puissent avoir un petit filtre entre les images et eux. On sait, et évidemment les générations qui viennent vont être abreuvées d'images, peut-être même des fois plus que de textes. Or, on apprend, et c'est normal, à lire les textes, l'alphabet, mais est-ce qu'on sait vraiment, et est-ce qu'on s'est aussi formé sur comment apprendre à lire une image ? Et c'est en ça, en fait, que nous, on essaie d'apporter notre petite pierre à cet édifice-là, qui est beaucoup plus global, bien sûr. Et de notre retour, nous, qu'on peut en avoir, c'est qu'effectivement, les élèves arrivent assez facilement à choper les petits trucs. Et évidemment, quand on a des élèves, nous, qui font cinéma depuis plusieurs années, qu'on les retrouve, par exemple, en CM2, après leur parcours, donc ça veut dire qu'ils ont vu plus de 20 films, ils ont vu plus de 20 analyses de films, quand même, c'est pas rien, quoi. Eh bien, ils ont effectivement un regard que nous et que les enseignants aussi perçoivent, qui est un peu différent par rapport à une école qui va démarrer ciné-jeune, où pour le coup, ils prennent ça un petit peu dans la figure. Et nous, on le voit, ils arrivent à faire des choses très simples, à repérer l'importance des couleurs, l'importance des symboles, l'importance de la musique, des choses qui peuvent évidemment apparaître à la fois très simples, mais si on ne nous a jamais dit qu'il fallait mettre le doigt dessus, le regard dessus et le conceptualiser, eh bien, ça passe dans le cerveau et puis il n'y a pas vraiment de filtre qui se fait, quoi.
Si je peux rebondir dessus, je trouve que ce qui est bien avec ce qu'on fait aussi, c'est que les élèves se développent un avis critique aussi sur ce qu'ils voient dans les films. C'est qu'on choisit des œuvres hyper intéressantes et à la fin, effectivement, un élève qui va suivre toute sa scolarité ciné-jeune, il va se construire une culture cinématographique quand même assez importante avec des œuvres de qualité et du coup avoir un avis critique sur tous les sujets de société, etc., qu'il a rencontrés dans ces films-là.
D'ailleurs, il n'y a pas que le cinéma qui est passé au crible. J'ai cru voir que vous apprenez aussi à décrypter la pub.
Oui, ça c'est une nouveauté qui, pareil, est venue d'une demande d'une ville. C'est le Champ de Pierre, en l'occurrence, qui a voulu créer un atelier parentalité autour de ça. Et nous, ça nous a intéressé justement de sortir du champ du cinéma, parce que évidemment les images sortent du champ du cinéma, bien sûr. Et donc, on a créé un atelier autour du décryptage de la pub, qui est assez fascinant parce que quand on commence un peu à mettre le nez dans un spot publicitaire, qu'on le décrypte un peu avec les outils de la mise en scène, puisque ce sont des mises en scène évidemment, on peut se rendre compte de choses de choses un peu spectaculaires, que derrière les petites lignes qu'on nous dit manger, bouger, eh bien en fait tout le discours de la mise en scène de la pub nous montre exactement l'inverse, en mettant l'accent par exemple sur la nourriture qui va devenir une façon de compenser un échec, au contraire de se récompenser. Et nous, l'idée, c'est de dire voilà, des pubs on en voit tout le temps, 120 000 logos par jour, hein, faut quand même en avoir conscience, qui nous arrivent en pleine figure. On n'a évidemment pas le temps de tout analyser, mais en tout cas se dire voilà, si on prend le temps, il y a du discours, et ce discours, c'est pas inintéressant de savoir aussi, pareil, mettre un petit filtre dessus. C'est toujours en tout cas intéressant, et parfois, c'est vrai que c'est assez choquant.
Quand on fait un tour sur votre site, on voit que vous comptez beaucoup de cinéma dans vos partenaires. Comment est-ce que vous travaillez avec ces structures exactement ?
Alors, d'abord, il y a des cinémas qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, qui sont des fidèles de Ciné-Jeune, en tout cas, qui reçoivent les élèves et les élèves ont la chance de voir les films en grande salle, quoi, voilà. Après, eh bien, c'est aussi à la demande des écoles. Quand une école fait une demande, dit, on aimerait venir à Ciné-Jeune, on aimerait voir les films, si c'est possible, en salle. Eh bien, nous, on va à la démarche, on va rencontrer le cinéma, leur demander si c'est possible. Et puis, ça se passe toujours plutôt bien, quoi.
La Fédération de l'Action Culturelle Cinématographique vient tout juste de s'exprimer sur la situation préoccupante de très nombreuses associations, structures nationales, régionales ou locales qui œuvrent dans l'éducation à l'image. Est-ce que vous avez l'impression que votre activité est de plus en plus difficile à mettre en place, et pourquoi selon vous ?
La raison, elle a un seul nom, ça s'appelle l'argent, forcément. Les restrictions budgétaires touchent absolument tout le monde. Donc, la culture, le cinéma, j'apprends malheureusement rien, c'est pas considéré comme une priorité. Donc, par la force des choses, l'action culturelle autour du cinéma va être prise de plein fouet. Je crois que c'est au nord de la France, dans le département du Nord, où le collège de cinéma a carrément été supprimé parce qu'on a dit ça sert à rien. Ils iront voir les films avec leurs parents et puis c'est tout. Donc, globalement, oui, on est pris dans une grande vague où on se doute bien que ça va souffler, qu'il va falloir qu'on s'accroche au bord. Mais bon, en parallèle de ça, on se dit que notre mission, elle est essentielle. Donc, on fera comme on pourra. Et puis, voilà quoi.
Et quel projet pour l'année à venir, pour le futur ?
Continuer sur notre lancée, s'accrocher effectivement même s'il y a des difficultés, et puis continuer à vraiment à faire découvrir le cinéma du mieux possible à un maximum d'enfants. C'est tout ce qu'on souhaite.
Oui, c'est ça. Nous, on a déjà tout finalement préparé pour l'année en cours. On a déjà des programmations, on a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, on va continuer comme notre bonhomme de chemin. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des fidèles, beaucoup de fidèles, des écoles, des établissements scolaires qui font appel à nous d'une année sur l'autre, qui ne remettent absolument pas en question notre action. Donc ça, c'est un peu notre chance. Oui.
Et d'ailleurs, le thème de cette année, c'est quoi ?
Alors, tout dépend des programmations. On a maternelle, élémentaire, ouais. Collège et lycée.
J'ai collège et lycée en tête. Collège, ça va être sur mon île. Lycée, ça va être l'IA humainement artificielle. Et puis primaire, je ne sais plus.
Alors, ça s'appelle Pas qu'un animal. On a 4 films donc, qui s'articulent autour de cette thématique-là. Nina et le secret du hérisson, Lindav du poulet, L'Orium de Kensuke et Mon ami robot.
Okay.
Et l'idée, le parcours, la thématique de cette programmation-là, c'est effectivement, au-delà d'analyse des films, de les analyser pour ce qu'ils sont, ça va être aussi de voir ce que représente l'animal dans l'œuvre. C'est-à-dire, par exemple, pour Lindav du poulet, l'animal, le poulet, ça va représenter un souvenir d'un papa que la jeune Linda n'a pas, etc. Donc l'idée, ça va être de voir ce que représentent les animaux dans les films. Voilà.
Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes récemment ouvert donc à la publicité. Est-ce que vous envisagez peut-être d'aller encore plus loin, de décrypter les images des réseaux sociaux, de TikTok, entre autres, ce genre de choses ? Est-ce que ça vous attire particulièrement ?
Pourquoi pas, on verra au fur et à mesure, mais c'est sûr que ça serait entre guillemets une nécessité vu toutes ces nouvelles images qui arrivent.
Il y a du taf.
Il y a beaucoup de travail, mais ça serait une belle mission qu'on pourrait mener.
Ok, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6h avant minuit. Bonsoir à vous.
Merci
bonsoir.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Ce soir, Ligue des Nations de football, l'équipe de France affronte l'équipe d'Israël dans un match qui devrait être sans difficulté pour les Bleus qui sont grands favoris dans ce match. Un match très politique aussi puisque pas grand monde ne souhaitait accueillir l'équipe d'Israël. Tu nous expliques tout ça dans ta chronique sport, Thibaut.
Oui, l'équipe de France s'est posé déjà plusieurs interrogations ces derniers jours, notamment celle du capitaine de cette équipe. Absence de grands noms, hein, comme Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, je le rappelle, avec le Real Madrid. Retraite internationale de Antoine Griezmann à 33 ans. L'équipe de France ne cesse de perdre ses tauliers. Plusieurs noms circulaient pour savoir qui allait être l'heureux élu pour être capitaine pour le match de ce soir. Mike Maignan, le gardien, Ibrahima Konaté, un des défenseurs centrales, ou peut-être encore Aurélien Tchouaméni, un des milieux de terrain. Ce sera finalement ce dernier qui portera le brassard de capitaine ce soir face à Israël. C'est un match à suivre en direct à 20h45 sur TF1 qui nous réserve une bonne soirée de football. Ce soir donc, le stade Puskás Arena de Budapest vibrera au rythme d'un match transcendant le simple aspect sportif. Cette rencontre entre la France et Israël compte pour la Ligue des Nations se déroulera dans un contexte particulièrement délicat, marqué par des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Voici plusieurs raisons montrant que cette rencontre n'est pas qu'un simple match de football.
D'abord, un cadre inhabituel, Thibaut.
Oui, Budapest, choisi comme site neutre, devient le théâtre d'un affrontement qui, en temps normal, aurait dû se jouer sur le sol israélien. Ce choix est révélateur de la situation actuelle au Moyen-Orient. Mais pourquoi la Hongrie tout particulièrement, vous allez me dire ? Eh bien, depuis 2023 et le début des conflits, l'UEFA a cherché un pays qui se déciderait d'accueillir la sélection israélienne. Aucun pays européen ne souhaitait accueillir cette équipe. Il y a même Benoît Eiling, homme politique belge, qui dit au magazine SoFoot « Tous les jours, on a des manifestations et des contre-manifestations liées au conflit en cours. Accueillir Israël, c'est faire entrer la tension géopolitique maximale dans nos quartiers. » C'est finalement la Hongrie de Viktor Orban, populiste et grand ami de Benjamin Netanyahu, qui a gentiment proposé d'être l'hôte de la sélection pour ses matchs à domicile. Bien sûr, tout cela est une des armes politiques de l'ultra-conservatoire hongrois qui facture ses matchs à prix d'or. Le sport, ici censé rassembler, se retrouve donc en porte-à-faux avec les réalités du monde. Les supporters, rassemblés dans l'enceinte hongroise, porteront le poids de ces enjeux complexes, où le football côtoie l'histoire et la politique.
Mais aussi bien sûr des enjeux sportifs.
Oui, sur le terrain, les Bleus, menés par leur entraîneur Didier Deschamps, chercheront à se ressaisir après des performances en demi-teinte. Je le rappelle, défaite face à l'Italie 3-1 et victoire 2-0 face aux voisins belges, mais jugée faible par les supporters. La qualification pour la prochaine phase de la Ligue des Nations est un objectif crucial. Pour cela, les joueurs devront montrer leur capacité à jouer sous pression. Non seulement en raison des enjeux de classement, mais aussi à cause de l'atmosphère chargée de ce match. De l'autre côté, Israël, souvent perçu comme un outsider, tentera de faire valoir ses atouts. Avec une équipe dynamique, capable de surprises, le défi est donc de taille. Les joueurs israéliens aborderont cette rencontre avec une motivation accrue, en quête de reconnaissance sur la scène internationale.
Mais c'est surtout une rencontre au-delà du sport.
L'ambiance promet d'être électrique, le chant des supporters, l'adrénaline des joueurs. Tout cela se mêlera à une conscience collective des événements tragiques qui se déroulent à des milliers de kilomètres. Cette dualité entre l'euphorie du sport et la gravité des réalités sociopolitiques ne manquera pas d'influencer l'esprit du match. Leurs performances sur le terrain, les gestes d'esprit sportif, les célébrations ou les gestes de solidarité entre joueurs seront scrutés à la loupe. Chaque action, chaque mot prononcé pourra être interprété comme un message. Notamment ceux d'Ibrahima Konaté, le défenseur de l'équipe de France, qui déclare au micro du journal L'Équipe en conférence de presse ce mardi.
Aujourd'hui dans le monde, ça nous laisse pas insensibles, ça c'est la vérité. Et je pense que si je vous pose la question à vous, si je vous dis ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous en prenez conscience ou pas du tout, vous allez me dire oui, c'est sûr. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est abominable.
Dans ce contexte, le football se transforme en un moyen de dialogue, de respect et de compréhension mutuelle. Alors que le coup d'envoi approche, les regards se tournent vers Budapest. Ce match, bien plus qu'un simple affrontement sportif, symbolise l'espoir d'un monde où le football peut servir de pont entre les cultures et les nations. Dans un climat tendu, les Bleus et les Israéliens auront l'occasion de montrer que, malgré les divisions, le sport peut rassembler et transcender les conflits. Quoi qu'il arrive sur le terrain, une chose est certaine, les enjeux dépassent largement le cadre du jeu. Et bien sûr, allez les Bleus !
Merci Thibaut pour cette première chronique dans 6 heures avant minuit. On espère que ce ne sera pas la dernière. Mais j'entends quelque chose qui sonne, non ? Non ? Vous n'entendez pas ?
téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous que vous voulez nous partager, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages, laissez-nous un message vocal. C'est au 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. C'est la fin de cette émission. Merci à Eva pour la technique. Merci Anthony pour l'interview. Merci Nathan, Thomas, Maxence, Thibault pour vos premières interventions dans 6 heures avant minuit. Quant à nous tous, on vous dit à lundi.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.